Bonjour, jeune blogueur du Festival de Sens, j'ai une mission pour vous. Pendant une semaine, tous les jours, vous allez devoir préparer une émission radio. Vous nous ferez visiter les coulisses, préparerez des reportages et ferez preuve d'inventivité.
Ils sont 14, ont entre 11 et 20 ans et ont une mission. Vous divertir et vous informer. Pour cela, ils lancent leur émission radio Musical Note.
Tous les soirs à 17h30, j'attendrai le résultat. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Bonjour à tous, nous sommes les blogueurs du Festival de Sainte et bienvenue sur la dernière émission de Music or Not sur Radio Demoiselle 102.3.
Et oui, Eleonore, c'est déjà la fin de cette semaine qui est passée beaucoup trop vite. Mais comme nous ne pouvions pas partir sans faire quelque chose de spécial, c'est une émission d'une heure composée de deux plateaux avec deux équipes de blogueurs que nous avons préparées spécialement pour vous.
En effet, Lucas, tous nos blogueurs se sont regroupés. Au cours de cette émission, vous pourrez entendre toutes les voix qui ont résonné sur votre poste toute cette semaine. Que ce soit Lucas, Kira, Mathilde, Inès, Aurélien, Margot, Lorraine, Manon, Tilan, Vincent, Elona, Léa et moi-même, nous allons nous relayer tout au long de cette heure de programme.
Et n'oublions pas de faire des bisous à Mathilde et Léa, qui ont aussi participé cette semaine au blog.
Et également, venez visiter notre page officielle, blog.abillodame.org, pour voir nos reportages et nos papiers.
Au programme d'aujourd'hui, dans ce premier plateau, il y aura une interview avec Lucie Favriot, qui nous a accompagnés tout au long du blog.
Un reportage sur Luxa Eterna et le cinéma préparé par Lorraine.
Ensuite, la rubrique brève qui sera réalisée par Manon, Aurélien et Tilan.
Et je me chargerai de la rubrique Un jour une question.
Nous allons tout de suite passer à l'interview. Je laisse la parole à Inès et Vincent, qui vont interroger Lucie Favriot, responsable de communication.
Bonjour Lucie, bienvenue sur le plateau de Music or Not. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter brièvement ?
Bonjour et merci à vous de m'accueillir. Alors donc, je suis chargée de communication à l'Abbaye aux Dames, la Cité Musicale, depuis maintenant 3 ans et ça va être c'est mon 4e festival. Je m'occupe donc de la communication web, de la presse à l'année et puis aussi de la rédaction des supports.
Et depuis combien de temps occupes-tu ce poste ?
Alors donc comme je le disais, ça fait donc 3 ans à peu près et demi et c'est le 4e festival.
Et hors du projet, est-ce que tu travailles sur d'autres gros événements ou projets ?
Alors effectivement, à l'Abbaye, on a une saison de concerts assez dynamique tout au long de l'année. On a à peu près un gros concert par mois et des petits événements aussi qui viennent s'ajouter autour de ça. Voilà, on a aussi des événements partenaires, le festival Piano en Saintonge, le festival Coconut Music, donc pas mal de choses à faire toute l'année.
Comment s'organisent les relations presse et la communication du festival ?
Alors la communication, c'est quelque chose qu'on commence bien en amont, puisque dès cette année, on commence à annoncer les dates de la prochaine édition. Et on va dire qu'à peu près au mois de décembre, on commence à vraiment travailler très sérieusement sur les supports, puisque la présentation officielle du programme est en mars. Donc il faut avant préparer la plaquette avec les concerts, le programme, mettre en ligne le programme aussi sur le site internet. Et au niveau des relations presse, c'est pareil, c'est un travail à l'année. On travaille avec une attachée de presse, Véronique Furlan, qui nous accompagne aussi sur la saison, parce que voilà, parfois des journalistes aiment bien venir un peu en avance, repérer un peu le site. Donc certains sont venus lors de concerts de la saison et sont revenus du coup pendant le festival cet été.
Est-ce que c'est un goût pour la musique classique qui t'a amené sur le Festival de Sainte ?
Alors, pas forcément. Moi, à la base, j'ai fait une formation en publicité et en événementiel. Et c'est parce que je suis synthèse de base que j'ai trouvé l'Abbaye aux Dames intéressante pour y faire une première expérience professionnelle. Du coup, voilà, je suis arrivée surtout sur le côté événementiel. Et après, voilà, la musique et la culture, ça reste quand même un de mes centres d'intérêt principal. Donc, ça m'a beaucoup attirée. Après, la musique classique, je l'ai quand même beaucoup découverte sur place, mais en même temps, ça avait un côté aussi intéressant d'apporter peut-être un regard nouveau pour communiquer aussi auprès d'un public qui ne serait pas forcément initié également.
Et en parlant de musique, qu'est-ce que tu écoutes au quotidien ?
Alors j'ai des goûts assez éclectiques, j'écoute aussi bien de la pop, du rock, du reggae, du rap, du métal quand ça s'y prête, voilà un peu de tout.
Comment tes journées s'organisent pendant le festival ?
Alors on commence assez tôt puisque dès 9h30 il y a une réunion avec toute l'équipe où on balaye un petit peu le programme et l'organisation de la journée, les moments sur lesquels il faudra être un peu attentif, les moments également sur lesquels il faut communiquer davantage. Donc on commence par ça. Ensuite, généralement, je viens vous voir, les blogueurs, pour vous faire part justement de tout ce petit programme sur la journée. Ensuite, je m'occupe de la presse du jour, les articles voilà, à récolter, un petit peu de réseaux sociaux aussi, sur Instagram, Twitter, Facebook, mettre les photos de la veille, les événements du jour, repartager les publications des artistes aussi, parce que les artistes sont de plus en plus actifs sur les réseaux sociaux. Et puis ensuite, bah, pas mal de petits imprévus à gérer sur une journée type.
Et qu'est-ce que tu penses de notre travail durant le festival ?
Moi, je suis très contente de votre présence. J'espère que vous aurez apprécié aussi cette découverte à la fois des médias et de la musique. Je trouve que la diversité de vos profils et puis aussi le fait d'avoir différents ateliers, radio, vidéo, écrit, je trouve que ça donne vraiment quelque chose de chouette et j'invite d'ailleurs tout le monde à aller voir le résultat même après le festival pour revivre un peu les grands moments.
Et toi justement qui connais ce blog depuis 4 ans, comment trouves-tu qu'il a évolué depuis ses débuts ?
Eh bien, il a bien grandi. Vous étiez au départ seulement quelques-uns et là, cette année, vous étiez 15 à participer au stage. Donc, c'est déjà un signe assez positif. Et puis, on l'a vu également au niveau de la fréquentation du site blog.abeilledame.org qui a augmenté. Voilà, on a des articles qui sont assez nombreux et la diversification justement des supports a permis, je pense aussi, de toujours renouveler le contenu et d'une année sur l'autre, finalement, c'est jamais pareil.
Et si tu devais retenir un artiste, un compositeur, un groupe de ce festival ?
Alors je dirais peut-être La Rêveuse, parce que c'était un concert de 22h, donc ma journée était à peu près finie et que j'ai pu aller écouter en entier et dans le public cette fois-ci. Et voilà, j'ai trouvé que c'était un moment assez poétique, trois voix d'hommes qui se prêtaient bien au lieu.
Si tu devais résumer le festival en trois mots, tu choisirais lesquels ?
Alors je dirais convivialité, parce que la voile est un lieu où tout le monde passe et où tout le monde se retrouve. C'est d'ailleurs souvent le point de rendez-vous, même pour vous, hein, pour retrouver les artistes dans les interviews. Donc convivialité, qualité, parce que je pense qu'on a quand même la chance d'avoir un festival qui propose toujours des artistes d'une grande qualité. Voilà. Et puis le dernier, patrimoine, parce qu'on est quand même dans un lieu millénaire et je pense que c'est ce qui joue aussi beaucoup dans l'esprit du festival.
Et pour finir, est-ce que tu pourrais nous donner une petite anecdote sur le festival ?
Oui, alors le souvenir, je pense, qui restera toujours marqué, c'est un soir sous la voile quand un artiste a commencé à jouer du Queen, Bohemian Rhapsody, au tuba, et que les chanteurs présents sous la voile ont repris l'hymne et l'ont chanté tous ensemble, et le public s'y est mêlé. Et voilà, ça, je trouve que c'est des petits instants assez magiques qui ont lieu au festival, et c'est vraiment l'esprit aussi de ce festival.
D'accord. Et après ce festival que tu as couvert depuis le début, tes vacances sont bien méritées, mais où tu vas partir ?
Alors je pars pas tout de suite, je reste encore quelques jours pour remettre en ordre tous les papiers, pas mal de choses à régler. Et ensuite, je pense que je vais partir peut-être sur les côtes bretonnes, prendre un peu l'air et me ressourcer.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci.
Merci Lucie d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de la dernière émission Music or Not. On se retrouve dans 3 minutes après une page de pub. Vous êtes toujours branchés sur Radio Demoiselle 102.3 dans l'émission spéciale de Music or Not.
Et maintenant, nous allons diffuser un reportage fait par Lorraine intitulé Lux Aeterna et le cinéma.
Kaspar Putnins et accompagné au piano par Jan Michiels, a consacré leur concert mercredi dernier à la musique de la seconde moitié du XXe siècle, à travers les œuvres de deux compositeurs quasi contemporains, Georges Ligeti et Alfred Schnittke. Georges Ligeti est un compositeur fasciné par le thème biblique du jugement dernier. En 1966, il écrit le fameux Lux Aeterna, le chant qui est chanté pendant la communion au moment de la messe des morts. L'œuvre a été écrite pour 16 voix a cappella, 4 sopranes, 4 altos, 4 ténors et 4 basses. Ligeti a été un compositeur très inspirant pour le cinéma, en particulier pour Stanley Kubrick. Pour apprendre davantage sur ce lien entre la musique de Ligeti et le cinéma, nous sommes allés à la rencontre de Luc Lavacherie, directeur de la programmation au cinéma Gallia de Sainte.
La première intégration des œuvres de Ligeti dans un film de Kubrick, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace. Et ce n'était pas le projet initial. La question se posait de savoir quelle musique pour ce trou noir, finalement, à l'intérieur du film, qu'est le monolithe. Et c'est ainsi que Kubrick en est venu vers Ligeti. Un musicien très contemporain, puisque des morceaux comme Lux Aeterna, qui seront joués durant le festival, ont été composés en 1966, et le film de Kubrick sort sur les écrans en 68. Le monolithe, finalement, c'est une sorte de point d'interrogation posé à l'humanité, pour l'interroger sur ce qui est à la fois très intime, très archaïque, et en même temps qui le tend vers son futur et son destin. C'est une musique, comme il le dit lui-même, qu'il faut jouer comme si elle venait de très loin. Et par ailleurs, elle se prête à la dramaturgie que Kubrick a voulu prêter à 2001, l'Odyssée de l'espace, qui fonctionne par étapes, c'est-à-dire étapes presque anthropologiques du destin de l'humanité.
Dans sa conférence autour du concert du Collégium Vocal, Hélène Dessis-Lartigo précise la présence d'une indication particulière sur la page de garde, comme si cela venait de très loin. Cette expression est une sorte de disposition qu'on doit prendre dès le départ de ce concert. Il y a une réflexion sur l'infini, sur le temps qui passe, comme si la musique était là avant que nous ne l'entendions, et qu'elle durera toujours même quand on ne la percevra plus. Selon elle, c'est une musique qui s'expérimente. Ce concert est une expérience physique et sensorielle.
Kubrick, c'est un réalisateur qui a beaucoup pensé à la musique. Mais il veut justement amener le spectateur vers une expérience. Et en même temps organique, c'est-à-dire en même temps universelle. Donc quelque chose de singulier et d'universel. Quoi de mieux que la musique pour finalement prendre en charge cette expérience particulière de ce qu'il y a de plus intime. Chacun écoute à sa façon. Il constitue tout un tapis sonore de bruit, soit dans un vaisseau spatial, et puis tout à coup vient comme se fondre dans ça la musique de Ligeti. Donc il y a une sorte de synchronisation dans le tapis sonore pour bien montrer que cette musique, elle vient de loin, mais elle est sourde de quelque chose qui nous est quotidien. En fait, elle est un personnage à part entière, quoi, lié à la figure du monolithe, qui est une forme géométrique pure, comme une musique du futur, quoi, qui vient. Et c'est ça que prend en charge la musique de Ligeti, c'est qu'il y a une logique qu'on décèle un peu, qu'on soupçonne intuitivement. Et je pense que Kubrick, qui était un homme d'image, mais qui a tout de suite compris, et ça c'est très très rare, hein, un cinéaste qui a autant d'oreilles, tout de suite compris le sens profond de la musique de Ligeti.
Merci Lorraine pour ce reportage. Nous passons au bref, présenté aujourd'hui par Manon, Aurélien et Tilan.
C'est l'heure des brèves.
Des quoi?
Des brèves. Enfin bref.
Alors Manon, il paraît qu'on peut faire de la musique avec des verres à vin.
Eh oui, le duo original, Glass Duo, avait fait sensation au Festival de musique de chambre à Bologne en Italie. Pour info, la musique de chambre est une musique classique composée pour des formations musicales réduites. Ce couple a interprété Dance of the Sugar Plum Fairy de Tchaïkovski avec des verres à vin vides.
Tilan, je me suis toujours demandé, qui est le meilleur entre Bach et Louis Marchand ?
Eh bien c'est Bach. En 1717, un concours d'orgue fut organisé pour mesurer le talent d'improvisation de Jean-Sébastien Bach face à la maîtrise du grand organiste français Louis Marchand. D'après certains témoignages, la veille du concours, Louis Marchand aurait assisté à une répétition de Bach et, impressionné, aurait prétexté être malade afin d'éviter le duel.
C'est vrai que la musique adoucit les coups ?
Je ne sais pas, mais Dance Box Box avait fait un tabac lors de sa création à la Biennale de danse à Lyon. Le chorégraphe Mourad Merzouki fait faire des combats de boxe sur de la musique classique pour faire oublier la violence extrême de ce sport, pour n'en retenir que l'art est de l'esquive et du mouvement.
L'art plus fort que le nazisme, c'est vrai ça, Tilan ?
C'est tout à fait vrai. Pendant la période du nazisme, les musiciens déportés continuent d'exercer leur art, et ce, malgré leur incarcération. C'est justement de cela que s'est inspiré Francesco Lotoro, un pianiste-compositeur. En effet, ce pianiste-compositeur aurait passé 20 ans de sa vie à reproduire les sons et les musiques que l'on pouvait entendre dans les camps de concentration.
Encore un chien mélomane, Manon ?
Oui. La scène s'est déroulée la semaine dernière près d'Izmir, dans l'ouest de la Turquie. Alors que l'orchestre de chambre de Vienne, dirigé par le Suédois Ola Runner, joue la 4e symphonie de Nelson, un chien errant, mélomane, monte sur scène, l'air absorbé par les notes et s'est mis à aimer les jambes d'un violoniste qui essayait de ne pas sourire.
C'est possible d'être obligé de payer pour sa propre création ?
Malheureusement, c'est tout à fait possible. Le 15 janvier 1875, après 15 ans de travaux, c'est enfin l'heure de l'inauguration de l'Opéra Garnier. Dans la salle, uniquement des personnes importantes, le président de la République Mac Mahon, la famille royale d'Espagne, mais également Charles Gagné, l'architecte de l'opéra. Cependant, on raconte que celui-ci aurait dû payer sa place pour assister à l'inauguration de son propre opéra.
Est-il vrai que les artistes peuvent faire preuve de charité ?
C'est tout à fait possible. Le musicien Billy Joel s'arrange pour que les places du premier rang de son concert ne soit pas en vente. Il peut donc les distribuer juste avant le concert à des fans et ainsi éviter qu'ils soient uniquement réservés par ceux qui ont les moyens de se les payer ou par ceux qui ont des passe-droits.
Tu as déjà entendu parler des danseurs éléphants, Manon ?
Maintenant oui. Kali et Viola, deux pachydermes du zoo Barabou dans le Kentucky, l'ont fait en écoutant une violoniste américaine, Eleanor Bartsch, répéter devant leur enclos avant une représentation. Des travaux scientifiques ont prouvé le goût des éléphants pour le son.
Merci à vous trois. Et pour conclure ce plateau, je laisse la parole à Éléonore qui s'est chargée de la rubrique « Un jour, une question ».
Vous avez une question ? Nous avons la réponse.
Enfin, on essaye.
Alors, pour cette dernière rubrique, nous avons décidé de nous poser nous-mêmes une question, à savoir quelle a été l'évolution du blog. J'espère que vous nous pardonnerez d'avoir un peu triché, mais nous voulions vous montrer comment nous en sommes arrivés jusqu'ici. Donc en tant que vétéran du blog, je tiens à souligner les guillemets autour de vétéran, je suis très mal d'avoir ce statut à 20 ans, je dois dire que celui-ci a bien changé. Au tout début, nous étions 3, 4 en comptant Adrien qui était alors tout seul pour s'occuper de nous, et nous faisions uniquement de l'écrit. Et puis surtout, nous découvrions totalement ce qu'était le Festival de Saintes. Nous étions encore bien timides et nous avions beaucoup de mal à nous imposer pour faire des interviews, demander des infos et faire en fait tout ce qu'il faut faire pour faire des papiers. Et puis surtout, les gens étaient assez étonnés de voir des jeunes comme nous courir partout dans l'abbaye aux dames avec un crayon et un carnet. Mais le blog s'est progressivement étendu. La deuxième année, de nouvelles personnes nous ont rejoints et nous avons commencé à découvrir la vidéo et l'audio. Bon, tout ça n'était encore qu'un commencement, mais le blog se construisait doucement. Adrien n'était plus tout seul, Loïs l'avait rejoint et nous étions un tout petit peu plus nombreux. Mais le vrai changement a eu lieu la troisième année. Moi qui étais habituée à un petit groupe de pas plus de 5 personnes, je vous laisse imaginer ma surprise quand le premier jour, nous nous sommes retrouvés à 10. Et puis surtout, nous avions désormais 3 accompagnateurs, Adrien, toujours fidèle au poste, Mathieu pour l'audio et Nicolas à la vidéo. Le petit groupe de blogueurs originels est devenu à partir de ce moment-là un joyeux bordel plus ou moins organisé. La vidéo et l'audio sont devenus des ateliers à part entière et surtout nous avons commencé à nous frotter un tout petit peu au direct. Cette année, nous sommes passés au niveau supérieur. Déjà, nous sommes 15, ce qui, je peux vous le dire, n'est pas toujours simple à gérer. Et comme vous avez pu l'entendre, je l'espère, nous avons tout fait pour que vous passiez un bon moment en notre compagnie tous les jours à 17h30. Nous avons également multiplié les vidéos et les articles, nous avons publié environ une cinquantaine. Et puis surtout, nous avons vu qu'un véritable groupe était en train de se dessiner. Nous ne sommes peut-être pas les plus grands pros de la musique classique, mais nous essayons de faire le mieux possible, et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Cela fait 4 ans que ça dure et on espère que ça va continuer les prochaines années.
Merci Éléonore pour cette jolie réponse. Nous remercions bien évidemment tous les blogueurs qui ont participé à la réalisation de ce premier plateau. Voici une pause musicale de 3 minutes avant le début du second plateau, présenté par Margot et Mathilde.
Nous sommes de retour en direct et en plein air de l'abbaye aux Dames à Saintes sur Demoiselle FM 102.3.
tout de suite, nous vous présenterons un
retour sur la publication du blog de l'Abbaye aux Dames de la semaine que je vous invite à voir sur blog.abbayeauxdames.org. Je laisse de suite la parole à Mathilde qui nous parlera du vendredi sur le sujet de la musique baroque en Espagne.
Vendredi 14 juillet, je suis allée à la rencontre de Béatrice Travers, la représentante de Valencia Early Music, sur le site du Festival de Sintes. Après une rencontre chaotique en espagnol, j'en ai appris plus sur la musique ancienne en Espagne. Elle travaille aussi dans la gestion culturelle et dans la partie de l'insertion musicale dans la Fundación Cultural. La Fondation a pour ambition une implication et une interprétation de la musique ancienne à travers l'éducation, l'interprétation et la diffusion, puisque selon elle, ce passé culturel est à intégrer, puisqu'il influence encore aujourd'hui notre musique, et que la musique antique fait partie de notre histoire sur 800 ans. Elle m'explique ensuite que c'est le gros travail de la Fondation, de transmettre aux générations futures ce passé culturel. Elle ajoute que la musique antique doit donc être accessible à tous, et que pour être transmise aux générations futures, cette accessibilité passe par des concerts et des festivals de musique antique, aujourd'hui populaires en Espagne. J'ai terminé notre rencontre sur une question plus personnelle. Je lui ai donc demandé de choisir un instrument de musique ancienne. Elle a choisi la harpa des Dos Ordenes, qui était un instrument très populaire dans le monde entier, et dont la tradition de réinterpréter a disparu. Il existe aujourd'hui seulement 2 compositeurs en Espagne. Je vous laisse écouter un extrait.
De suite, je vous laisse en compagnie de Kira, qui va nous parler de sa critique de Casse-Noisette.
Samedi dernier, c'était le concert du jeune orchestre de l'Abbaye. Le JOA est une formation internationale unique, composée de jeunes musiciens qui travaillent autour de répertoires classiques et romantiques sur des instruments d'époque. Ils ont interprété quelques extraits des suites d'orchestre du Casse-Noisette, de Tchaïkovski, dirigé par le grand chef d'orchestre Philippe Hervaig. Tchaïkovski est un grand compositeur russe, de l'époque romantique. Le Casse-Noisette est un ballet qui est une de ses plus grandes compositions. Je le connais bien car je l'ai entendu plusieurs fois et j'ai joué la partition de harpe de la valse des fleurs avec mon orchestre. Le jeune orchestre a très bien joué les suites en représentant bien les moments intenses et doux avec des basses émotions que le compositeur essaie de transmettre dans les partitions. Ils ont bien suivi la partition mais auraient pu s'en décoller un peu puisqu'il n'y avait pas de danseurs. Ils sont passés à côté de l'occasion de mettre plus en face, de rendre la pièce unique. Par exemple, rendre quelques mouvements plus lents ou mettre plus en face sur les nuances. Dans la danse de la fée dragée joue le celesta, qui est un instrument de percussion avec un clavier. Il a particulièrement bien joué avec un air mystérieux et enfantin. Le solo de harpe, dans la valse des fleurs, un des morceaux les plus connus du ballet, est angélique. Elle doit ruisseler sur l'orchestre. Il faut prendre ce temps pendant ce solo. Il faut penser au beau phrasé et ne pas se laisser imposer un tempo. Le faire avec plus de rubato. Le solo de harpe ce jour-là a bien donné l'illusion d'un ruisseau qui s'écoule, mais aurait pu être plus vivant et bouger un peu plus. Le concert reste un beau moment plein d'émotions et de moments fantastiques.
Merci beaucoup Kira, je laisse maintenant la parole à Eleonore, qui a rencontré dimanche 16 juillet Benjamin Allard.
Alors effectivement, j'ai rencontré Benjamin Allard. Au départ, j'avoue que j'étais pas très enthousiaste parce que j'ai un peu de mal avec les clavecinistes. Et puis en fait, finalement, ça s'est très très bien passé. C'est quelqu'un absolument de passionné et qui maîtrise son sujet. Et puis, quand je lui ai posé la première question, j'ai tout de suite compris que c'était quelqu'un de passionné et vraiment d'intéressant. Donc comme pour beaucoup de musiciens, son histoire d'amour avec les instruments a commencé très tôt. Il n'a pas 7 ans quand il découvre et joue du piano pour la première fois. Et puis peu après, il commence à jouer de l'orgue, dont le son le fascinait, et apprend également le clavecin, poussé entre autres par la musique de Bach. Donc ce sont deux instruments dont il ne se sépare plus, et puis c'est aussi un compositeur qui est progressivement devenu central dans sa vie. Alors cet intérêt pour Bach s'amplifie progressivement,
et un peu plus âgé, il cherche à tout prix à obtenir une partition du compositeur en appelant un magasin à Rouen, donc la ville la plus proche de son village natal en Normandie. Et quand le magasin lui envoie le mauvais morceau, et ben il appelle et s'énerve alors fortement contre la vendeuse et la harcèle pour qu'elle lui envoie la bonne partition. Donc aujourd'hui, les partitions ne sont plus un problème pour lui et son amour pour le compositeur est bien présent. Benjamin Allard est devenu une référence et s'attaque d'ailleurs aux œuvres les plus complexes. Et dimanche, il jouait les fameuses variations Goldberg, qu'il estime d'ailleurs ne maîtriser véritablement que depuis 2 ans. Et encore, il me dit que maîtriser véritablement un tel chef-d'œuvre, ça reste toujours compliqué. Et puis, il faut savoir que pourtant, c'est la première fois qu'on lui propose de les jouer, il a seulement 19 ans. Donc il refuse dans un premier temps de s'y essayer avant de finalement accepter. Mais il arrête très vite de les jouer pour passer à autre chose. Et quand il se replonge dans les partitions plusieurs années après, il explique redécouvrir le morceau, notamment grâce au Parker, qui lui permet de se détacher des autres interprétations et de mieux s'approprier l'œuvre. Pour autant, malgré les années, cela fait maintenant 13 ans qu'il l'a joué pour la première fois, le morceau lui réserve encore des surprises. Il me confie, le caractère très varié de l'œuvre et des canons qui sont parfois poussés très loin est fascinant. Même pour un musicien comme moi qui travaille très souvent l'œuvre, je suis encore surpris par sa complexité. La découverte de l'œuvre est, je pense, infinie. Par contre, ce qui ne change jamais est la difficulté de jouer d'un tel monument. Benjamin Allard me dit « Je suis heureux de commencer au début et d'arriver à la fin, puisque le morceau est particulièrement difficile. Il faut beaucoup de concentration et ne pas se perdre dans les canons, surtout quand on joue par cœur comme c'est mon cas. » Et puis, un autre élément immuable, pour lui, il faut écouter le morceau encore et encore. Pour Benjamin Allard, un tel morceau ne se comprend et ne devient intéressant qu'après de nombreuses écoutes. Une activité qui est, de son opinion, loin d'être un fardeau, puisqu'un tel morceau, comme il me le dit, on ne s'en lasse jamais.
Merci beaucoup, Éléonore. Je laisse maintenant la parole à Ilona, qui nous présentera son reportage sur le crieur de rue.
Lundi, Léa et moi, nous nous sommes rendus dans les rues de Saintes et sommes partis à la recherche du crieur. Nous l'avons trouvé au marché de Saintes, en plein travail. Pour lui, crieur de rue est un métier d'avenir. Mais pour découvrir un peu plus le personnage, je vous propose d'écouter tout de suite un extrait.
Bref, c'est le festival de musique des programmes. Demandez le programme. Le festival de musique de Saintes à l'Abbaye aux Dames, la cité musicale. Cette année, c'est bleu, c'est orange et c'est beau.
Crier, c'est s'adresser aux gens en direct. C'est pour ça que les gens aiment bien. C'est qu'on s'adresse à eux vraiment. Il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de papier. C'est direct, c'est du rapport humain. Et c'est ça qu'ils aiment. Et c'est pour ça que je n'ai pas non plus de porte-voix. Je le fais a cappella, quoi. Et c'est ce qu'ils aiment, les gens. Ils aiment ce rapport humain, ce rapport de proximité. Et les nouvelles, on apporte les nouvelles, voilà, d'homme à homme. C'est comme ça. Bon, mais là, je ne vends pas des salades, je vends du spectacle. Crieur, je ne pense pas que ça existait vraiment jusqu'au 19e siècle. C'est-à-dire qu'il y avait des colporteurs, ils vendaient des babioles, des trucs, des machins. Et en même temps, ils colportaient des nouvelles, qui venaient d'ailleurs surtout au Moyen-Âge, là, quand il y avait plutôt des difficultés de circulation. Et les gens ne circulaient pas. Donc le colporteur qui ramenait, je ne sais pas moi, un morceau de tissu de Hollande et qui descendait et qui se retrouvait dans le nord de la France, ben, voilà, il racontait aussi les nouvelles. Ça commence comme ça. Colporteur, c'est comme sur les marchés, hein, il vend des sardines, il vend des melons et il appelle les gens. Avant, ça se faisait beaucoup. Maintenant, je crois qu'il y a des arrêtés préfectoraux qui empêchent les vendeurs de légumes de crier sur les marchés. Ça, c'est tout nouveau, c'est depuis les années 50.
Et un numéro exceptionnel, un festival vraiment fantastique cette année, puisque nous aurons droit à la visite de William Christie, notamment demain. Et puis, aujourd'hui, les madrigaux à 19h30, les madrigaux de Monteverdi, c'est la naissance de l'opéra.
Merci Elona. Tout de suite, nous écouterons le reportage d'Aurélien sur le wine truck de Louis, qui est présent au festival pour nous proposer des vins de qualité.
Bonjour madame.
Bonjour. Vous avez quoi comme vin du jour?
Alors en vin du jour, on a un Côte de Provence en rosé, le domaine de Figuières. Voilà, un petit peu de minéral assez sec sur les petits fruits rouges. Et après, on a le Château de Flaye, c'est un magnifique Chablis, sec aussi, plutôt sur les fruits secs. et très floral.
Je vais prendre un chablis, s'il vous plaît, bien frais.
Allez, c'est parti. Donc bonjour, moi je m'appelle Louis, j'ai 25 ans, j'ai fait des études dans le vin et donc je suis aujourd'hui avec Claire sur le Festival de Sainte qui a 25 ans aussi et qui a aussi fait des études dans les vins et spiritueux. On est venu à Sainte, en fait c'est notre tout premier festival, on voulait d'abord se tester et on s'est dit que c'était hyper intéressant de lier la musique classique avec le vin aussi et donc c'est pour ça qu'on est venu ici cette semaine. Donc nous on est venu ici avec un bar à vin nomade du coup. Alors le bar à vin, pour vous le décrire un petit peu, c'est un vieux Citroën HY bétaillère des années 65. Alors ce camion, il a une histoire particulière. On en voyait passer un petit peu partout en France, on disait que c'était un petit peu dommage qu'il parte à la casse. Et donc on a décidé de le rénover pour un petit peu garder le patrimoine des vieux véhicules qu'on avait. Donc c'est un vieux Citroën qui a déjà plus de 50 ans. Donc voilà, c'est vraiment un vieux véhicule de collection qu'on a ouvert sur le côté et qu'on a un petit peu aménagé en sorte de guinguette avec des petites guirlandes. Voilà, et on vend du coup des verres de vin, des bouteilles de vin aussi directement. Alors le vin et le rosé sont évidemment frais et on sert ça tout au long de la journée jusqu'à à peu près la fin du festival. On n'a pas que des produits de la région, on a des vins qui viennent un petit peu partout de France. On a du Bourgogne, on a du Loire, on a du Bordeaux, on a aussi du Provence avec du magnifique rosé. Et on a aussi des vins étrangers pour faire découvrir autre chose. On a du vin argentin par exemple et du vin bulgare. Donc vraiment une palette de vins assez élargie pour proposer plein de choses différentes. Alors en dehors du festival, on a une entreprise à Bordeaux qui s'appelle Les Trois Pinardiers. Donc on a une boutique et on fait aussi de la livraison en 30 minutes directement chez les gens. Et en plus, on a un bar à vin qui va s'ouvrir dans un mois et demi, toujours sur Bordeaux. On est vraiment ravis d'être ici. On ne connaissait pas du tout Sainte, c'est magnifique. Le cadre où on est, là, dans l'esplanade, c'est superbe. Et surtout, les gens sont adorables, notamment l'équipe des festivaliers qui sont vraiment adorables. Donc, on est vraiment ravis d'être ici.
Je laisse la parole à Lucas et Vincent qui vont nous expliquer le rôle du chef d'orchestre.
Lundi 17 juillet, mardi 18 juillet, Lucas et moi-même avons parcouru la ville de Sainte à pied jusqu'à l'église Saint-Vivien et le collège René Caillé pour assister à des répétitions. Ainsi, nous avons vu le collégium vocal de Gand, l'orchestre des Champs-Élysées ou encore le jeune orchestre de l'abbaye répéter leur gamme pour être fin prêt le jour J.
Nous en avons profité pour demander à certains musiciens en quoi les répétitions sont importantes avant un concert et surtout le rôle que joue le chef d'orchestre en répétition. Nous avons notamment interrogé le premier violon des Arts Florissants, qui est aussi formateur pour le jeune orchestre de l'abbaye. Voici un extrait de notre reportage.
Il y a déjà des facteurs techniques, il faut mettre en place des choses. Bien sûr, on a toutes les notes sur la partition, on a tous les rythmes, tout. Mais il y a autant de musiciens, là je pense qu'on est une cinquantaine, il y a des choses à mettre en place. Et puis il y a une part importante qui est laissée au directeur, au chef d'orchestre, qui fait des choix esthétiques qui ne sont pas dans la partition. Et c'est à lui de nous les communiquer. Et il faut le faire avant le concert, parce que ça demande d'être répété plusieurs fois pour que tout soit bien huilé, pour que la machine de l'orchestre fonctionne parfaitement.
Ok. Tous les rythmes avec des doubles doivent être beaucoup plus précis. Vraiment sur le temps, quand c'est écrit. Pas du tout avant. Et quand on a ça, c'est différent de.
Chaque chef a vraiment son idée sur une partition et c'est pour ça qu'on veut tel ou tel chef parce que chacun a mûri une réflexion sur telle ou telle pièce et c'est pas seulement une question de tempi qui peuvent être différents ou de nuances, c'est toute une conception de l'architecture de la pièce qui est différente d'un chef à l'autre et c'est ça qui est très important pour le JOA c'est vraiment super de pouvoir voir tout le long de l'année, plusieurs chefs. Parce qu'ils se nourrissent de ces différentes idées.
Un, deux, trois.
dans quelques minutes, après une courte page de publicité.
Nous sommes de retour en direct et en plein air de l'Abbaye aux Dames sur Demoiselle FM 102.3.
Je laisse donc la parole à Lorraine et Margot, qui nous présenteront leurs critiques sur le concert de La Tchoumia.
Jeudi après-midi, à 12h30, Margot et moi avons eu le plaisir d'écouter le pianiste lyonnais Willem La Tchoumia dans un répertoire du XXe siècle hors du commun. Il nous a emmenés dans l'univers de quatre compositeurs de la même époque, Claude Debussy, Manuel de Falla, Eric Satie et Federico Mompao, qui, d'après les explications spontanées du pianiste, se faisaient écho à quelques années d'intervalle, se lançant dans un jeu de questions-réponses stimulant. Un point fort était sans aucun doute l'œuvre de Satie. Peu connu par le grand public, ce sport et divertissement a agréablement surpris plus d'un. Avant de commencer le jeu, Willem La Tchoumia nous a lu la préface de cet ensemble de 21 petits morceaux, au titre absurde. « Je conseille de feuilleter ce livre, » nous dit Satie, d'un doigt aimable et souriant, car c'est ici une œuvre de fantaisie, que l'on n'y voit pas autre chose. Avec beaucoup d'esprit et d'humour, Willem La Tchoumia nous a dévoilé les faits insolites autour de l'œuvre ironique de Satie, provoquant les rires de l'auditoire. Avant d'entreprendre son interprétation des charmes de Federico Mompao, le pianiste nous explique sur scène que ce compositeur catalan répondait, avec ses morceaux inspirés des poésies contemporaines de Paul Valéry, à Claude Debussy, dont il semble être un grand héritier. Après de nombreuses vagues d'applaudissements incessants, un La Tchoumia souriant retourne derrière le Steinway pour jouer deux bis très surprenants. Celui qui nous a le plus marqué était sans aucun doute le morceau vénézuélien que Willem La Tchoumia affirme ne connaître que depuis un mois. Cette pièce, au style latino-américain et au ton chantant, a enchanté à l'unanimité, notamment grâce à la contagieuse joie de vivre de Willem sur scène. Nous avons aperçu beaucoup de sourires et de nombreux regards fascinés dans la salle. À la sortie du concert, les réactions ont été toutes laudatives. Une spectatrice très enthousiaste affirme même que c'est un des concerts dont elle sort vraiment changée. Pour Margot, novice dans ce domaine de la musique classique, ce concert a été une réelle découverte. Qu'en as-tu pensé ?
On décrit La Tchoumia comme remarquable. Et je suis d'autant plus d'accord du fait que, n'étant pas une adepte de la musique classique, je suis arrivée sans penser que ce que j'allais découvrir me plairait autant. C'est ainsi que je découvre avec étonnement l'une des phases de la musique classique du XXe siècle. Willem La Tchoumia a une présence sur scène qui nous transporte littéralement dans son monde. C'est une belle rencontre entre le musicien et son spectateur. Ainsi, lors de l'interprétation de Feu d'artifice d'Eric Satie, nous découvrons une explosion de sons qui, mêlée à l'attitude de Willem, nous emporte dans un monde absurde d'émotions diverses. Tout au long du concert, nous passons par différents sentiments, que ce soit la joie ou la nostalgie. Cette mélodie enchanteresse permet de nous détendre le temps d'un instant. Ce fut une très belle découverte pour moi, et je vous conseille de découvrir son style musical particulier qui vous fera quitter la salle le sourire aux lèvres.
Merci beaucoup les filles. Hier, vendredi 21 juillet, Inès est allée à la rencontre du pianiste Adam Laloum. Il forme avec Lisberto à l'alto et Victor-Julien Laferrière un trio revisitant les classiques de Beethoven, Schumann et Brahms. Voici son reportage.
Je m'appelle Adam Laloum, je suis pianiste, j'ai 30 ans. Je participe au Festival de Saintes en tant que musicien, chambriste, voilà, auprès de Victor-Julien Laferrière et Élise Berthaud. J'ai commencé à l'âge de 10 ans, il y avait un piano à la maison, mon frère jouait du piano, donc j'avais envie de faire un enfant. Très souvent qu'on aime beaucoup jouer, mais pas uniquement, on aime aussi beaucoup la musique française, la musique russe. Mais il se trouve que pour cette formation alto, violoncelle, piano, c'est une formation assez spéciale, donc il y a très peu d'œuvres pour cette formation, donc c'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup de duos pendant le concert, et donc il se trouve que le plus harmonieux c'était comme cela, avec ce Beethoven, Schumann et Brahms. J'ai envie de faire le maximum de choses possibles, donc Du solo, de la musique de chambre, de l'accompagnement de chanteurs. Enfin voilà, je trouve toutes les parties de piano sont très intéressantes. Être source d'inspiration, les humeurs, la nature, les gens, la musique en elle-même est une grande source d'inspiration. Beaucoup de choses, enfin, on essaie de s'absorber du maximum de choses qui nous entourent. C'est un éminent musicien vivant, qui fait partie de ces pionniers de la musique baroque aujourd'hui, donc c'est voilà, une grande personnalité, quelqu'un qui fait revivre la musique baroque, qui voilà, quelqu'un de passionné, de passion.
L'agenda.
Pour ce dernier jour de festival, la chorale des enfants et des adolescents nous ont présenté Ma Semaine Enchantée dans l'auditorium à 10h45 et à midi. À 13h30, Lee Incogniti nous ont interprété Vivaldi à l'abbatiale sous la direction d'Amandine Meyer. Et enfin, pour finir, le dernier concert de cette 46e édition du Festival de Saintes, l'Orchestre des Champs-Élysées nous interprétera Wolf, Mahler et Brahms, ce soir à l'abbatiale à 19h30.
Et voilà, chers auditeurs, c'est fini pour cette année. Merci pour votre écoute. Merci à Demoiselle FM de nous avoir diffusé tout au long du festival en direct et en plein air. Et encore un grand merci aux blogueurs de l'abbaye d'oser faire ces émissions quotidiennes, malgré leur manque d'expérience. Et surtout, merci au festival de nous accueillir tous les ans.
Tout comme Lucie Favriou, qui était à notre écoute durant tout le stage blog et qui a accepté de répondre à nos questions sur le plateau cet après-midi. Un merci spécial à l'équipe de Chronos et Kairos, composée d'Adrien pour l'écrit, Nicolas à la vidéo et Mathieu à la radio, qui nous encadrent depuis maintenant 9 jours avec bonne humeur et convivialité. Ce fut une très belle expérience pour nous et je vous invite à venir à la prochaine édition du Festival 2018. Merci à vous et à l'année prochaine. C'était les blogueurs de l'Abbaye aux Dames 2017.